rentes, salaires et profits. Cependant, cette évolution donne lieu à des interprétations très différentes, y compris au sein des théories critiques du capitalisme. C'est pourquoi, avant d'entrer plus en détail dans le plan de cet exposé et de mon analyse, je voudrais me positionner par rapport à une première interprétation très répandue de la place de la rente dans le capitalisme. Selon cette première interprétation, qui plonge ses racines dans l'économie politique ricardienne, la rente est appréhendée comme l'expression de quelque chose d'extérieur au capitalisme, comme l'héritage de notre mode de production, et l'on considère que le véritable capitalisme, le capitalisme pur, le capitalisme efficace, serait un capitalisme sans rente. Une vision semblable, tout en remplaçant le rôle de la rente foncière par la rente financière, est aujourd'hui reproposée par certaines interprétations de la crise du mode de régulation fordiste et de la tonie de la croissance de l'emploi qui, de manière plus générale, caractérise l'Europe depuis les années 80. Insomma, pour cette analyse, l'essence et l'enjeu de la crise actuelle se trouverait en dernière instance dans le conflit entre la vocation rentière du capital financier d'une part et le capitalisme productif dell'époque fordiste qui lui serait soucieux de la production et de l'emploi. De cette interprétation résulte parfois, même dans les débats en Italie avant les élections, de manière plus ou moins esplicite, une sorte de proposition d'un compromis néo-ricardienne, un néo-fordiste, entre salariat et capital productif contre le pouvoir de la rente financière. Ce compromis devrait permettre de rétablir l'égémonie du capitalisme manageriale dell'époque fordiste et avec lui le conditions d'une croissance proche du plein emploi. Et cela dans un contesto di continuità sostanziale avec le forme di regolazione del rapporto salariale e dell'accumulazione du capital de cette époque. Je dirais d'emblée que cette grille de lecture me semble profondément erronée, et cela a un double titre. Premièrement, elle se méprend à mon sens sur le statut de la rente dans le capitalisme, car elle la juge comme une simple excroissance de la dynamique du capital. Deuxièmement, la dénonciation des effets pervers de la rente, comme catégorie de la répartition, est déconnectée de toute analyse des transformations sous-jacentes, qui depuis la crise du fordisme sont intervenus dans les formes de la division du travail, dans les rapports capital, en déterminant à mon sens l'épuisement même de cette dynamique du capitalisme industriel sur laquelle reposent les analyses de type ricardien et néo-ricardien. En fait, par rapport à cette première interprétation, la thèse que je veux développer et soumettre au débat est tout autre, et peut être exprimé à travers deux propositions principales. Premièrement, la rente capitaliste, à partir de sa formation historique même avec le processus des enclosures, est l'autre phase du commun. Elle est le résultat d'un processus d'expropriation qui constitue à la fois le point de départ et un élément essentiel de la dynamique, de la reproduction de la dynamique du capitalisme dans le temps et dans l'espace. Deuxièmement, la rente représente, à mon avis, non seulement le point de départ, mais aussi le devenir du capitalisme contemporain. Pourquoi le devenir? Parce que dans un contesto où la loi de la valeur tant du travail entra in crise et où la coopération du travail apparaît de plus en plus autonome par rapport au capital, des fonctions de direction du capital, ce sont les frontières même entre rente et profit qui entrent en partie en crise. Insomma, alla suite della crisi della soumission réelle, le profit, come la rente, tendono a se présenter de plus en plus come un pur rapport de distribution, dissocié dans la plupart des cas de fonctions positives dans l'organisation de la production et la croissance de richesse. En même temps, je dirais que le cycle unifié du capitalisme industriel dont nous parlait Marx, sur l'hégémonie du capital productif, entre en crise. Et nous assistons aujourd'hui à un retour en force d'une logique marchande et financière qui n'est pas sans rappeler celle du capitalisme pré-industriel selon des modalités qui rappellent aussi celle du Putinghaus système. Pour étayer, ou plutôt pour explorer cette thèse, je vais articuler cet exposé en deux principales parties. La première partie sera donc consacrée à donner une définition théorique des catégories des salaires, rente et profit. Et dans ces démarches, je vais insister, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue théorique, sur les frontières floues, mouvantes, qui séparent la catégorie de la rente de celle des profits, en m'appuyant notamment sur l'analyse que développe Marx dans le livre 3 du Capital, lorsque dans certains passages, il ébauche une théorie du capital-rente. Dans une deuxième partie, on va alors se pencher sur une mise en perspective historique des dynamiques qui, dans la transition du capitalisme industriel au capitalisme cognitif, ont conduit à un retour en force et à une multiplication des formes de la rente, que je vais essayer aussi d'énumérer. En conclusion de cet exposé, si on va disposer du temps, autrement on va le faire au cours du débat, il serait aussi intéressant de montrer toutes les implications de cette analyse de la nouvelle articulation rente, salaire et profit pour penser aujourd'hui la proposition de revenu social garanti, conçu à la fois comme une expression de la mutation du travail productif, mais aussi peut-être comme un rempart, comme une réappropriation de la logique de la rente. Je vais donc venir à la première partie concernant la définition de la célèbre formule trinitaire, salaire, rente et profit, et bon, en montrant l'interdépendance entre ces catégories. D'un point de vue logique, je commencerai donc par la catégorie du salaire. Pourquoi pour la catégorie du salaire? Pour la simple raison que dans le capitalisme, le salaire définit la rémunération du travail productif, c'est-à-dire du travail producteur de plus-value, dont dépendent donc aussi bien les profits que la rente. Précisons aussi, comme le faisait déjà remarquer Marx, y compris pour la fabrique, que cette plus-value n'est pas la simple somme du travail individuel de chaque salarié, mais doit être pensée d'emblée comme l'appropriation de la part du capital de la plus-value issue de la coopération du travail. Cet élément sera essentiel pour la suite de notre analyse. Pourquoi ? Car il devient en fait crucial pour repenser les concepts des salaires et des travaux productifs et d'exploitation dans un contexte où cette coopération du travail n'est plus enfermée dans l'usine, mais s'étend sur l'ensemble de la société, sur l'ensemble des temps sociaux, et de plus, tente de plus en plus à s'organiser de manière autonome du capital. Après les salaires, passons donc aux catégories de revenus qui se prennent les produits de ce surtravail, c'est-à-dire alla rente e au profit. Le concept de rente, lui, è estremamente complesso, per moi, d'un point de vue théorique. Je propose de le définir à partir des trois éléments essentiels et étroitement liés. Trois éléments qui permettent de prendre en compte à la fois son rôle dans la reproduction des rapports sociaux et dans les rapports de répartition, qui en sont l'autre face. Le premier élément est donc le suivant. Du point de vue des rapports de production, on peut caractériser la genèse et l'essence de la rente capitaliste comme le résultat d'un processus d'expropriation des conditions de la production et de la reproduction. Autrement dit, la formation de la moderne rente capitaliste coïncide avec le processus d'enclosure, comme j'ai dit, qui, comme on le sait, ont été la condition sine qua non de la transformation de la terre et de la force de travail en marchandise fictive, en sens de polémie. De ces premiers constats, nous pouvons dégager, d'après moi, un premier enseignement essentiel. L'importance variable de la rente dans l'histoire du capitalisme est étroitement liée à ce qu'à la suite des polémies, on peut qualifier comme l'alternance historique des phases de désocialisation, de résocialisation, et puis des nouvelles désocialisations de l'économie. Ainsi, comme pour la rente foncière, à l'époque de l'accumulation primitive du capital, les différentes formes prises par la rente au cours de l'histoire du capitalisme portent toujours de manière privilégiée sur la privatisation des conditions sociales de la production et la transformation du commun en marchandises fictives. Nous avons là les traits communs qui englobent dans une logique unique les premières enclosures qui portent sur la rente jusqu'aux nouvelles enclosures portant sur les savoirs et sur le vivant. Notons par ailleurs qu'une logique analogue pourrait être établie entre le rôle de la dette publique durant la phase de l'accumulation primitive du capital et le rôle qu'aujourd'hui la titratisation de la dette publique joue dans la déstabilisation des institutions du welfare state. Un deuxième élément qui permet de caractériser la rente, à mon sens, est le suivant. Les ressources sur lesquelles porte la propriété ou le prélèvement rentier tendent en général